L'a-t-il dit, ne l'a-t-il pas dit? Les oreilles exercées des médias l'ont pourtant entendu. M. Strauss-Kahn Sinclair aurait laissé entendre qu'en cas de victoire du non, M. Mitterrand serait peut-être amené à démissionner. Démissionner? Pourquoi démissionner? A déclaré l'intéressé à sa sortie de l'hôpital Cochin, où il a été opéré la semaine dernière d'un cancer de la prostate. Je ne pense pas que l'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car ce n'est pas de ce côté-là que cela se passe. Interrogé par l'AFP dans la cour de l'Élysée un peu avant 17h30, M. Mitterrand a répondu qu'il allait prendre un peu de repos jusqu'à dimanche, où il passera une bonne partie de la journée à Château-Chinon, où il doit voter. Lundi et mardi, j'irai encore un peu mollo avant de reprendre mes activités mercredi avec le Conseil des ministres, a-t-il ensuite confié en montant les marches du perron de l'Élysée. La rentrée dans la joie. Gardien de prison. Après l'échec de la réunion syndicat chancellerie, un syndicat de policiers, l'USC, décide d'entrer dans l'action aux côtés des gardiens de prison. Les conditions de cette action n'ont pas été précisées pour l'instant, mais son but est de contraindre le gouvernement à prendre ses responsabilités. Outre la solidarité avec les gardiens de prison, il s'agit de manifester le ras-le-bol des policiers qui assurent actuellement les missions des gardiens dans les maisons d'arrêt touchées par le mouvement de grève. De leur côté, certains CRS, appelés aujourd'hui à remplacer les gardiens grévistes de la prison de la Talaudière dans la Loire, ont exigé de porter leurs armes à l'intérieur de l'établissement et souligné qu'ils se contenteraient d'y maintenir l'ordre. Nous sommes des professionnels du maintien de l'ordre, nous ne pouvons pas du jour au lendemain devenir des gardiens de prison, a déclaré l'un d'eux. Et pendant que Pierre Bérégovoy annonce que le dialogue est ouvert en permanence avec les gardiens, la chancellerie envoie des avis de mise à pied, cette fois pour une durée d'un an. Sanctionnés ou pas, les gardiens, eux, restent fermes. Ainsi, à Fleury-Mérogis, la majorité du personnel a déposé les clés ce matin. Même situation à Clairvaux, où les surveillants refusent toujours de rentrer dans l'établissement, pas complètement fouillés selon eux. Agriculture. Le président de la FNSEA, M. Luc Guyot, menace d'organiser des actions d'envergure dans les semaines à venir si M. Mermaz ne rapporte pas de résultats positifs de la réunion des ministres de l'Agriculture des 12 lundi et mardi à Bruxelles. Ce sera un deuxième carton jaune pour le ministre. Banlieue, la fièvre monte dans le quartier du Mirail à Toulouse. Attaques, vols, incendies, 300 habitants en colère ont manifesté la nuit dernière pour protester contre l'insécurité quotidienne dans la cité Midifac à la suite d'un meurtre hier soir d'un fils de harki. Les toxicomanes sont surtout mis en cause par la population. Même les meilleures choses ont une fin. Les 2800 soldats ex-soviétiques stationnés depuis près de 30 ans à Cuba vont retrouver le climat plus frais de leur pays natal. Ainsi en a décidé le gouvernement cubain qui a constaté qu'à la suite de la fermeture définitive de l'Union soviétique, l'existence de cette unité militaire sur le territoire national n'a plus de sens. Les soldats seront tous partis d'ici la mi-93. Enfin, les astronautes de la navette Endeavour aiment tellement ça qu'ils ne veulent plus redescendre. Comme on les comprend. Bonsoir. Radio Courtoisie, disais-je, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 16 septembre de 18 à 21h et en différé le jeudi 17 septembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Bruno. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libres, vous pouvez adhérer à notre association. Pour l'année, la cotisation minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Bonsoir à tous. J'ai un souffle dans mon casque. Est-ce que c'est normal que je ne manque pas de souffle? Non, du moment que je n'ai pas de souffle au cœur, comme dirait le docteur Reichmann, tout va bien. Alors, nous attendons ce soir des invités. Nous attendons Maître Georges-Paul Wagner, qui devrait venir nous parler de la situation en général et de l'Institut National de Formation en particulier. Nous attendons ensuite Monsieur Bruno Tellen, ou plus exactement, pardon, Monsieur Basile de Coq, qui est le directeur du mensuel Jalon. Et nous recevrons ensuite Jean-Pierre Maugendre, qui est président ou secrétaire général, je ne sais jamais. Non, je crois qu'il est président. Il est président, n'est-ce pas? De... Alors là, il ne faut pas que je dise de bêtises, Renaissance catholique. Parce que, en général, c'est là que je me prends les pieds dans le tapis. Mais j'ai gardé dans le studio, j'ai enlevé, suivant les bonnes méthodes Patagone, notre ami Pierre-Dominique Cochard, qui était avec le docteur Reichmann et qui est resté en tant que journaliste économique, parce qu'on va probablement parler de ces questions maastrichtiennes. Avant d'en finir avec ce Maastricht, je ne peux plus supporter, mais j'en ai vraiment ras la frange, comme on dit élégamment. Alors... D'ailleurs, apparemment, je suis pas le seul, puisqu'un auditeur nous téléphone en disant « Ils nous rabattent les oreilles pour le oui, mais ils ont tellement peur du non qu'ils ne reculent devant rien. » Moi, j'aime bien le « il », parce que ça englobe vraiment tout le tas. Alors, « ils ne reculent devant rien pour supprimer tout ce qui peut se rapporter au non. » Et il nous dit « C'est ainsi qu'à 17h15, sur le périphérique extérieur, à hauteur de la porte des Ternes, ils n'ont pas hésité à bloquer la circulation, créant un bouchon d'au moins 2 km. Tu parles à 17h15 sur le périphérique. Si 2 km, c'est probablement beaucoup plus que ça. Avec un camion nacelle protégé par des véhicules de police pour décoller les affiches du non à Maastricht. C'est vraiment des dingos. Hein. Alors, je ne sais pas qui sait, est-ce que c'est la préfecture de police ou la mairie de Paris, mais c'est des dingos. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Un auditeur me dit que ce matin à Sainte-Geneviève-des-Bois, il était impossible de se procurer Minute La France, et le kiosquier a expliqué que le matin, les enfants des écoles étaient venus prendre tous les exemplaires. Mais c'est très bien ça, il dit que Sainte-Geneviève est une ville rose. Alors si les municipalités socialistes se mettent à faire acheter Minute La France par les enfants des écoles, on a gagné. Non, il doit y avoir quelque chose qui ne plaît pas à la municipalité de Sainte-Geneviève-des-Bois dans le journal, je ne sais pas, il faudrait que je le relise quand même. À propos de la prostate à tonton, c'est joli la prostate à tonton.
C'est joli la prostate à tonton.
Un auditeur dit, j'étais moi-même opéré de la prostate il y a un mois, la biopsie avait été faite bien avant l'intervention, évidemment, d'ailleurs ça va sans dire, et le cancer avait été décelé à ce moment-là. Le cas de M. Mitran semble fait pour faire pression sur le vote. C'est possible, mais je dois dire que... J'ai du mal à conceptualiser, comme on dit aujourd'hui, mon cher Pierre-Dominique, je ne sais pas si tu souffres des mêmes difficultés, le rapport entre la prostate à tonton et le vote à Maastricht. Ça me paraît assez... Je veux dire que, vraiment, un citoyen qui irait voter oui dimanche en se disant « je vais faire une dernière fois plaisir à tonton avant qu'il clabote », c'est pas un citoyen, c'est un imbécile. Ça, il n'y a pas d'autre mot, non ? Que Mitterrand ait un cancer de la prostate, c'est dommage. Toute personne ayant un cancer, c'est fort dommage. Encore que maintenant, ça se traite avec une grande efficacité, ça se soigne bien. Et puis, tonton, il a 76 ans, hein, c'est pas un perdreau de l'année. Donc, c'est triste. Mais je peux vous jurer, je connais rien dans la médecine, sauf à des médecines parallèles et subalternes et inadéquates, comme dirait Françoise Varlet. Mais je suis certain que... c'est pas en votant oui dimanche que vous le guérirez. Il y a d'autres méthodes curatives qui sont certainement beaucoup plus efficaces. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez envie de voter non, votez non. Ça n'aggravera pas le cancer de tonton.
Au contraire.
Ni au contraire.
Il ira peut-être le soigner. Il dira, bon, et ben écoutez...
Ça pourrait lui donner le temps d'aller se reposer. Et puis, si vous votez donc non, ça ne l'aggravera pas. Et si vous votez oui, ça ne le sauvera pas. Donc, vous voyez... C'est pas la peine de vous faire du souci. Et puis un auditeur s'étonne du fait que durant la campagne pour le référendum, il n'a pas été question de M. Tapie. Vous savez, il en va des régimes comme des personnes. Il y a un vieux dicton qui dit « Quand on a le caleçon braineux, on ne monte pas au mât de cocagne ». Eh bien, il faut dire, le pouvoir, là, à propos de Tapie, il n'avait pas tellement envie de monter au mât de cocagne, parce qu'il faut bien reconnaître que, en fait, de caleçon. Donc voilà. Les caleçons Adidas, bien entendu. Nous allons venir maintenant aux divers sujets de cette soirée, de cette demi-soirée, mais avant, pour ne pas faillir la tradition, je reçois Marc Dem. Bonsoir Marc.
Bonsoir Serge, ne faillissons pas.
Ah, voilà, je voulais savoir si on disait ne faillons ou ne faillissons.
Ah, c'est un problème que je vous pose en passant.
Vous avez la réponse. Alors... Eh bien, écoutez, comme d'habitude, vous allez nous donner, non pas la substantifique moelle, mais quelques échantillons alléchants du contenu de Iota Unum, la lettre de lettre confidentielle d'information religieuse dont vous êtes l'auteur et qu'on peut se procurer en écrivant boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Lex,
en Laye,
Sedex.
Oui, alors comme nouvelle, eh bien, il y a surtout dans le prochain numéro, il y a surtout un grand reportage sur la ratatouille bruxelloise. Alors ça ne veut pas dire qu'on est passé maintenant à la cuisine, mais ça désigne, comme vous le devinez, cette grande fête œcuménique qui a eu lieu sur la grande place de Bruxelles et qui a d'ailleurs duré 3 jours.
Oui, comment dirais-je, naissance à une cérémonie expiatoire de réparation,
oui.
beau pléonasme, qui a été organisée par nos amis de Saint-Nicolas-du-Chardonnay le 13 septembre, c'est-à-dire pas plus tard que dimanche dernier.
C'est ça, et qui a finalement groupé autant de personnes,
et oui.
Puisque sur la Grand Place à Bruxelles, enfin dans les différents colloques qui ont précédé, il n'y avait pas grand monde, et sur la Grand Place, il y a eu dans les 2500 personnes, en dehors des acteurs du grand opéra bouffe. Et je vois que également au château de, je ne vous le prononce pas parce que je suis flamand, mais je ne connais pas la langue.
Mais ça se soigne très bien.
qui se trouve au nord de Bruxelles, il y avait 2500 personnes qui sont ensuite allées dans la cathédrale, qui ont pris la cathédrale, à la meilleure manière wurmelingienne.
Oui, qui consiste à entrer dedans tout simplement et
à
prier.
Pour chanter le credo, il se levait Regina.
Voilà, ben, c'était très bien. Vous avez d'autres informations qui ne relèvent pas du reportage, là, mais
oui.
Plus de l'investigation.
Alors, une information qui se joint à cela, si on peut dire, c'est ce qui se passe au Brésil. La situation au Brésil ou à Rio, par exemple, tous les 2 jours s'ouvre un nouveau temple d'une secte évangélique. C'est un développement prodigieux. Dans les quartiers pauvres, on compte que la moitié de la population a environ apostasié pour s'inscrire dans une secte. Alors voyez-vous, ça coïncide avec cette affaire de Bruxelles, puisque à Bruxelles, il y avait aussi des évangélistes. Et puis, si on peut se sauver son âme, comme on ne dit plus, chez les évangélistes aussi bien que dans l'Église catholique, alors pourquoi ne pas changer ?
Mais en plus, je veux dire, sauver son âme de quoi, puisqu'il n'y a plus d'enfer ?
Oui.
Alors,
oui.
Donc, le risque n'est pas grand. C'est le pari de Pascal avec une pièce qui a 2 avers. C'est formidable. C'est quelques côtés que ça retombe, on est sûr de gagner. Non, alors, il faut en profiter, il ne faut surtout pas se gêner. Donc, c'est tellement plus rigolo d'être évangéliste que d'aller dans les églises conciliaires, que tant qu'à faire.
Mais ça coûte plus cher. Parce que...
Ah bah oui.
Il donne 2 fois plus par personne. et en moyenne à leur secte que les catholiques ne donnent à leur église. C'est encore une petite information en passant. Alors une chose un petit peu plus agréable, si vous voulez, c'est un fait divers qui s'est passé à San Gregorio, qui, comme vous le savez, est dans la province de Belluno en Italie.
Bien sûr.
La police
Belluno, il y a un fromage merveilleux dans la province de Belluno.
Ah, ouais. Le Belluno.
Eh ben voilà, c'est facile. Dites-moi, vous prononcez beaucoup mieux l'italien que vous ne prononcez pas le flamand.
Oui. Je me mettrai au flamand quand j'aurai 5 minutes.
Oui, c'est à peu près ce qu'il faut.
Oui, alors dans ce village, la police reçoit un appel téléphonique au numéro 113, comme chez nous le 17, là-bas on fait le 113, paraît-il. Alors, l'agent de service décroche le téléphone et c'est un septuagénaire qui lui dit « Voilà, je suis donc à San Gregorio et je voudrais me confesser. » Et que fait l'agent de police? Eh bien, il comprend très bien que depuis un an que le curé est mort, il n'y a plus de curé là. Alors, il dit, ben monsieur, on va faire le nécessaire. Et il téléphone à une paroisse voisine qui envoie un curé. N'est-ce pas beau?
Superbe histoire. Il faudrait envoyer des cartes de postales de félicitations au commissariat de San Gregorio, alors.
De San Gregorio, oui.
Provincia di Belluno.
Voilà.
Eh bien, écoutez, on va faire. On va envoyer au commissariat de San Gregorio, province de Belluno, Italia, des petites cartes postales pour dire bravo. Ça va lui faire. Il va recevoir des cartes postales françaises, il ne saura jamais pourquoi, le gars. C'est bien. Marc, je vous remercie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouveaux extraits de cette lettre confidentielle Iota Unum, que l'on peut recevoir à titre d'échantillon. Et ensuite, on s'abonne, bien entendu.
On s'abonne toujours.
Donc, pour recevoir les échantillons, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut envoyer sa carte de visite, boîte postale 52 78 101, Saint-Germain-en-Laye-Cedex. Au revoir, Marc.
Voilà, au revoir, Serge.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces cris qu'on entend? C'est des gens qui se sont cognés contre la porte. Alors, un auditeur nous dit, ce soir, audition très mauvaise sur la banlieue ouest, et en particulier à Poissy. Je ne sais pas ce qui se passe, moi j'ai une mauvaise audition dans mon casque, et pourtant je suis à vraiment 2 cm de mon micro, donc c'est pas très étonnant qu'à Poissy on entende mal. Nous parlerez-vous de la soirée de M. Le Pen au Zénith, demande un auditeur. Aucune radio ne nous en a dit un mot. Oui, on en parlera bien sûr, dès que Maître Georges-Paul Wagner sera arrivé, mais... Je vous signale que non seulement il décolle des affiches du non sur les périphériques, ce qui ne facilite pas la circulation, mais d'autre part, voilà, comme ça c'est très agréable, là j'entends beaucoup mieux, mais d'autre part, les footballeurs ont rendez-vous ce soir juste à côté, là, au Parc des... Comment ça s'appelle? Parc des Princes.
Parc des Princes.
Au Parc des Princes. Donc ils vont tous regarder 22 abrutis qui courent après un seul ballon. Alors naturellement, vous pensez la circulation... Enfin, 22 abrutis. Disons 21, comme ça on ne dit pas lequel est intelligent. En dehors de l'arbitre, qui lui, naturellement, est le plus intelligent de la bande, parce que quand même, il est là pour emmerder le monde, l'arbitre. C'est lui qui a ma sympathie dans le football, parce que c'est vraiment celui qui embête le plus les footballeurs, non?
Oui, c'est vrai.
Hein, voilà. Alors, Pierre-Dominique Cochard, on va évoquer quand même la question maastrichtienne. À travers une dépêche de l'AFP, pardon, qui constate que les mesures monétaires prises en début de semaine, c'est-à-dire les mesures monétaires qui ont consisté à baisser le taux,
d'intérêt
en Allemagne, ces mesures monétaires ont complètement échoué et elles ont été battues en brèche par ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire que la spéculation s'est acharnée sur les monnaies faibles, défiant les banques centrales, nous dit la dépêche AFP, et provoquant des mouvements désordonnés sur les marchés d'échange et des valeurs, mouvement propice à un nouveau réalignement monétaire. Alors, quand ils disent des mouvements désordonnés, c'est pas pour rien. La livre, lanterne rouge au sein du SME depuis la dévaluation de 7% de la lire dimanche soir, parce que donc en dévaluant, la lire était repassée devant la livre. Donc la livre a enfoncé à plusieurs reprises son cours plancher au sein du SME, de 778 Deutschmark en raison de l'avalanche des ventes de sterling. C'est-à-dire que, si je comprends bien, Pierre-Dominique, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais les gars qui ont du sterling, et ils se disent c'est une monnaie qui est malade, Il faut donc pas que je le garde, il le vende, il l'échange en quelque sorte contre du Deutschmark.
Contre du Deutschmark.
Et naturellement, ça fait baisser le cours. C'est comme quand il y a beaucoup de cerises, les cerises valent pas cher. Donc comme il y a beaucoup de livres, les livres ne valent pas cher. Je parle pas des livres de sortie littéraire, mais des livres sterling.
Et là, on est vraiment bien loin de la monnaie unique.
Alors,
que vous nous imposez.
Et alors on nous dit, malgré les interventions musclées des banques centrales, musclées, c'est-à-dire que les banques centrales, pour éviter que ça baisse trop, rachètent massivement de la livre. Eh bien, malgré ça, les Britanniques ne sont pas parvenus à redresser leur monnaie. La Banque d'Angleterre a, dans un premier temps, relevé de 2 points ses taux de base, c'est-à-dire qu'elle a augmenté le loyer de l'argent. Elle a dit, bon, ben, achetez, prenez de la livre, puis ça vous rapportera 2 points de plus. Ça n'a pas suffi. Il a fallu ensuite relever de 3 points, monter à 15% le taux de base. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, donc le taux normal, c'est combien par rapport au taux de base? 2 fois à peu près, j'imagine, non? Ou 1,5 fois.
Le taux normal, c'est-à-dire.
Mais quand on veut emprunter pour acheter un appartement, par exemple, en Angleterre, on n'emprunte pas à 15%, on emprunte à 22 ou 23%.
Bien sûr, oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'il devient carrément impossible.
Impossible.
D'acheter quoi que ce soit, puisqu'il faut payer le quart de son endettement en loyer annuel de l'argent, ce qui est totalement fou. Alors, l'AFP ajoute, ces gestes d'une ampleur sans précédent depuis plus de 15 ans n'ont pas trouvé d'écho sur les marchés, c'est-à-dire ça n'a même pas dissuadé les gens de continuer à vendre leurs livres sterling, ils ont continué à vendre, et à Londres, en fin de journée, la livre était revenue sous son cours plancher du SME à 9 francs 432 exactement. Les taux d'intérêt britanniques sont revenus à un niveau inconnu depuis l'adhésion de la livre au SME en octobre 90. La Banque d'Angleterre aurait ces derniers jours dépensé, alors écoutez bien, c'est phénoménal, les 4 cinquièmes de l'emprunt de 7,3 milliards de livres, 700 milliards de francs, contractés une semaine plus tôt dans le but de faire peur aux spéculateurs. Donc là, on est vraiment dans un krach monétaire épouvantable. Et alors, le meilleur signe de la réalité gravissime de ce krach monétaire, c'est que on nous dit, hors du SME, les monnaies scandinaves ont également été chahutées. La banque suédoise a dû relever son taux de 500%, c'est-à-dire l'augmenter de 425%, son taux marginal, pour défendre sa monnaie. Autrement dit, il y a plusieurs hypothèses. Ou c'est une gigantesque opération de sidération, en quelque sorte, à l'avant-veille
du traité, du vote.
Du vote. Mais enfin, je vois mal quand même toute la machine économique, financière, monétaire européenne monter un turbin pareil juste pour faire voter les Français.
Bien sûr.
Ça me paraît quand même un petit peu fort de café. Ou c'est la démonstration que le serpent monétaire européen,
que tous les systèmes, et notamment le serpent monétaire, a montré une bonne fois pour toutes ses limites.
Alors, voilà.
Pour ne pas parler de la monnaie unique que l'on nous propose et qui est un système complètement irréalisable.
Alors, je dois interrompre une seconde cette conversation parce que Maître Wagner est bien là, on me signale qu'il est bien là, mais il est bloqué. C'est quand même absolument incroyable. Il est impossible de se garer dans le quartier. Les policiers qui sont là pour faire respecter l'ordre public par les amateurs de football interdisent tout arrêt dans le quartier. Et donc, je ne sais pas si Maître Wagner va pouvoir venir nous rejoindre. J'espère qu'on va trouver un moyen, peut-être en mettant quelqu'un au volant qui tournera pendant qu'il nous parlera, je ne sais pas. Mais c'est fou ce pays. On ne peut pas stationner. Bon, enfin. Alors, revenons à une autre forme de démence qui est cette histoire de Maastricht. Pierre-Dominique Cochard, je rappelle que tu es journaliste économique ou économiste.
Non, journaliste économique.
Économique. Tu es économique, donc on peut t'embaucher dans un journal, c'est économique. C'est
voilà.
Ça l'explication. Bon, tu es journaliste économique, et donc tu as une bonne connaissance de ces sujets. Est-ce que on peut inférer de ce chaos monétaire qui est en train d'atteindre, qui est en train de frapper à peu près toutes les monnaies européennes, parce que je dois vous dire que la lire et la peseta sont également extrêmement secouées par la spéculation. La lire réussit à peine à frôler son cours plafond au sein du SME, et 2 jours plus tard, elle était au cours plancher, soit un cours de 820 lire pour un marque allemand. La peseta, c'est pareil. Les Pays-Bas et la Belgique ont pour la deuxième fois depuis le début de la semaine diminuer d'un quart de point leur taux de base. C'est-à-dire qu'en fait, tous les pays essayent...
Ne savent plus comment réagir, essayent
d'ajuster le système, mais le système ne veut pas se laisser ajuster parce qu'il est tout simplement contrebattu par la spéculation, c'est-à-dire par le jeu normal, libre du marché des monnaies.
Bien sûr.
Alors, la question, c'est de savoir si le traité de Maastricht, dans ses effets, notamment de création d'une monnaie unique, qui, Marie-France Garraud l'a expliqué récemment à ce micro chez Payan, si cette monnaie, qui ne sera pas l'écu, je le répète, cette monnaie unique pourrait résoudre ce genre de tragédie, ou pas du tout.
À mon avis, sûrement pas. Dans l'état actuel des choses, elle ne réglerait absolument rien. Simplement, les monnaies actuellement, sans parler de la spéculation, reflètent les santé des économies. Or, les santé des économies ne sont pas florissantes, c'est le cas de le dire. Et on voit mal comment une monnaie unique pourrait faire la symbiose entre des économies en perdition comme l'Italie, la Grèce, le Portugal, et des économies qui sont encore relativement florissantes comme l'Allemagne, et pour une petite part la France, encore qu'il y aurait beaucoup à dire.
Donc alors, c'est une construction artificielle. Quelle est notre situation à nous? Est-ce que notre situation va plutôt dans le sens d'un renforcement des taux d'intérêt ou d'un abaissement de nos taux d'intérêt? Comment on se situe par rapport à ce mouvement?
Bien, il faut quand même rappeler que notre Premier ministre et notre ministre des Finances nous avaient annoncé un petit peu sous forme de chantage une baisse des taux d'intérêt à condition que nous votions bien, c'est-à-dire nous votions oui.
Mais visiblement, là, on a la démonstration du mensonge, c'est-à-dire que de toute façon, qu'on vote oui ou non, ça ne changera rien, il faudra faire quelque chose.
Bien sûr.
Alors, c'est baisser ou rester ou quoi? Qu'est-ce qui serait logique?
Mais logique pour que l'économie reparte, parce que l'économie est complètement en panne, c'est de baisser les taux d'intérêt. Simplement, comme l'état de l'économie actuellement ne le permet pas. Et si on prend, disons, indicateur par indicateur, l'état français, si on le rapportait à une entreprise, se rapprocherait du dépôt de bilan.
Mais si on baisse les taux d'intérêt, on va effectivement inciter les entreprises à emprunter pour financer leur
développement, bien sûr.
Mais on va dissuader les capitaux de s'investir. Donc le jeu va recommencer, c'est-à-dire que comme il y aura beaucoup d'emprunteurs et pas beaucoup de prêteurs, le loyer de l'argent va réaugmenter.
Et c'est une spirale, effectivement infernale, et c'est pas facile de la dénouer, c'est sûr, actuellement.
Eh bien écoutez, j'espère que je vous ai rassuré. J'espère que j'ai rassuré les nombreux milliardaires qui nous écoutent, car nous sommes une radio, cette émission est une émission de droite. Chacun sait que les milliardaires sont d'extrême droite. Regarde, M. Maxwell, par exemple, qui était milliardaire, c'était un escroc, mais il était milliardaire, il était de droite, tout le monde sait ça.
Milliardaire de ses dettes,
voilà. Donc, ayant rassuré les milliardaires, je vais me tourner. Alors, plusieurs appels me reprochent de ne pas avoir parlé de Pierre Sergent. Alors, on va en parler avec Maître Georges-Paul Wagner, évidemment. Mais j'ai l'intention de consacrer un peu plus que 2 minutes de d'hommage funèbre à Sergent, qui est un homme qui a compté énormément dans dans ma vie de militant. Et on me donnera un petit peu de temps pour préparer cette émission avec des témoins, des gens qui l'ont connu, qui ont combattu à ses côtés et tout. Croyez bien que j'ai pas oublié Sergent. Ce serait vraiment un paradoxe assez ahurissant. Maître Georges-Paul Wagner, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes venu nous parler du programme...
de l'Institut de Formation Nationale.
Mais avant, je voudrais quand même vous demander comment ça s'est passé hier au Zénith.
Je ne pourrais pas vous raconter l'ambiance parce que malheureusement, mes obligations professionnelles m'avaient éloigné de Paris. Et je n'étais pas là, n'est-ce pas? Mais enfin, j'en ai entendu parler. Et j'ai su que l'ambiance était très bonne, n'est-ce pas?
D'ailleurs, il y a eu un très bel hommage qui a été rendu à Pierre Sergent.
À Pierre Sergent, oui. Pierre Sergent, dont en ce qui me concerne, je venais d'apprendre la mort. Je l'ai apprise en voiture par la radio. Je l'avais surtout connu au Parlement, puisque nous avons été élus députés en même temps. Et plus particulièrement encore ensuite, puisque j'ai été son avocat. Ton avocat, dans une affaire que vous vous rappelez peut-être, où on lui avait imputé d'avoir tenu des propos, c'est d'être un journaliste nommé Pala.
Oh, un journaliste, c'est vraiment beaucoup dire. J'ai pas de respect pour les journalistes, mais quand même, il y a un minimum de bon usage.
Il avait prêté des propos d'une prétendue interview, en même temps qu'à Bernard Anthony, d'ailleurs. Et alors, c'est un procès assez héroïque qui s'est plaidé devant le tribunal, devant la cour, et qu'il avait gagné entièrement. Bah. Ça, je dois dire que ça a été une de ses dernières satisfactions, puisque l'arrêt de la cour a dû être rendu il y a quelques mois.
Il faut dire que ce pauvre Pala était mal tombé, puisqu'il avait taxé, il avait prêté, inventé carrément une interview, fabriqué de
Il avait entièrement inventé, oui.
Il montrait une bande magnétique en disant « elle est là-dedans », mais il n'y avait rien sur sa bande magnétique, puisqu'il n'y avait pas d'interview.
Mais il utilisait cette dialectique particulière à certains journalistes. Je l'ai encore entendu soutenir hier par... un journaliste du Canal Enchaîné, ce n'est pas vrai, mais c'est vraisemblable. J'ai prêté à Jean-Marie Le Pen des propos qui ne sont pas les siens, mais reconnaissez qu'il aurait pu les tenir compte tenu de... etc.
Alors voilà. Justement, dans le cas dans le cas de Sergent, ce n'était pas vraisemblable, puisque il faut quand même rappeler que Pierre Sergent, quand il était tout jeune homme pendant l'occupation, quand les lois raciales ont... imposé aux Juifs le port de l'étoile jaune, Pierre a été un des rares Français qui, par défi et par protestation, a épinglé, c'était un gosse, il avait 16 ans, je crois.
Il avait 16 ans. Il
avait a épinglé sur sa poitrine une étoile jaune.
Oui.
Alors quand on voit des petites crevures de presse, des petits étrons à pattes, venir accuser un homme comme ça d'antisémitisme...
Et alors ce qu'il y avait de... c'est comique. Ce qu'il n'y avait pas d'amusant, mais enfin, c'était quand même un peu comique. C'est que, bien entendu, la LICRA aussitôt s'est déchaînée, n'est-ce pas, et avait annoncé qu'elle allait faire un procès à Pierre Sergent, n'est-ce pas, prenant pour argent comptant ce qui avait été écrit dans le journal en question.
Alors pardon.
J'ai donc un peu plus particulièrement connu Sergent à ce moment-là. Il avait attaché beaucoup d'importance à ce procès, gagné en première instance, gagné devant la cour, et ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, une de ses dernières satisfactions, parce que il n'avait aucun doute depuis un an sur son état et sur les risques.
Et il affrontait d'ailleurs avec un courage,
avec beaucoup de courage,
qu'il avait montré
beaucoup de sérénité
dans toute sa vie. Françoise, bonne maman, Françoise Monestier, qui est parmi nous là, qui est une des plus vieilles, ancienne, excuse-moi, tu es ravissante et jeune, tu es la jeunesse éternelle, et tu es une des plus anciennes militantes sergentistes.
Oui, j'ai connu Pierre Sergent en novembre 68, d'ailleurs en même temps que toi, puisque nous nous sommes rencontrés...
Et dans des circonstances sur lesquelles nous ne nous étendrons pas.
Nous nous sommes rencontrés aux environs de Paris, lorsque Pierre est réapparu parmi nous, et il est venu encourager ses jeunes camarades du MJR, puisque pour nous, Pierre Sergent, c'était notre chef, c'était Philippe.
C'était l'époque du solidarisme.
C'était l'époque des solidaristes français, et c'est là que je l'ai connu, et j'avoue que sa disparition m'a fait beaucoup de peine, et m'a reporté 25 ans en arrière. Ce fameux jour de novembre 68.
C'était plutôt une nuit d'ailleurs.
C'était plutôt une nuit. Non, c'était, on avait passé une soirée, on s'était retrouvé autour d'un feu de camp, mais il y avait Christian Becroute, Myriam, Marie-France, Jean-Pierre Stirbois,
toute la bande,
voilà. Tous les vieux camarades.
Oui. Alors on le salue, et puis tu viendras pour l'émission. On demandera à Hélène aussi de venir.
Oui, Hélène Sabatier. Oui, j'oublie aussi Hélène Sabatier.
Qui était là, bien sûr. Et puis Jean-Pierre Fabre. Et puis, je ne sais pas si Jean-Pierre était monté d'ailleurs.
Si Jean-Pierre était monté, il y avait Jean-Pierre, Charles Cassagno, Jean Cassagno, Gérard Boucher. Enfin, tous les camarades.
Le noyau. Donc, on fera une émission sur Philippe, sur Arthur.
Sur Arthur. On l'appelait Arthur. À Toulouse, on l'appelait Arthur.
Et puis, on parlera de lui. On racontera plein de choses sur lui, parce que c'était quand même un personnage tout à fait exceptionnel.
Oui.
Un grand bonhomme.
Oui.
Voilà. Maître, alors, cet Institut National de Formation, on en a déjà parlé.
On en a déjà parlé à l'occasion d'autre chose, en effet, mais maintenant, ça devient tout à fait actuel, si je puis dire, puisque la première conférence va avoir lieu mardi prochain, 22 septembre, et que c'est Bernard Anthony qui va la donner. Et puis, la conférence presque inaugurale, puisque l'Institut aura déjà été inauguré, sera donné le 8 octobre par Jean-Marie Le Pen. Le thème général de toutes les conférences de cette année étant orienté vers la nation, présenté à la fois comme un fait et comme un bienfait. C'est vous dire que nous sommes très actuels au moment de Maastricht.
Actuel, mais pas dans le vent.
Pas dans le vent.
Mais quand on voit les évêques décréter...
Ah oui, parler de tribunes.
Les nations sont des tribus,
oui,
on peut craindre le pire.
Oui.
On se demande si vraiment on peut encore être aujourd'hui français, catholique et...
Oui, qui les écoute?
Oh bah Dieu merci, sauf les francs-maçons qui sont à l'écoute en permanence.
Oui, c'est vrai.
Pour
ils
les
sont
dénoncer.
Très écoutés désormais par le public qui ne va pas à la messe.
Ça fait beaucoup de monde. Hein.
Oui.
Alors, cet Institut National de Formation, au fond, est-ce que c'est une invention, je dirais, spécifique au Front National, ou est-ce que ça existe dans d'autres mouvements?
Eh bien, écoutez, si, j'ai connu quelque chose d'assez analogue, et d'ailleurs j'en ai été aussi autrefois le président, il y a 30 ans. C'est l'Institut d'Action Française, qui, une fois par semaine... entendait former les étudiants, si vous voulez, et qui le faisait. J'ai pendant 2 ans dirigé cet institut. Par conséquent, j'étais un petit peu rodé à ce genre de choses, ce genre d'institut, qui était couronné chaque année par un camp d'AF, qui était au fond un peu l'équivalent de ce que sont désormais
les
universités d'été. Hein. Donc ça existait un peu, ça existe d'ailleurs... actuellement encore pour l'Action française qui donne aussi des conférences régulièrement, mais ce qui peut-être est plus particulier à l'Institut de formation nationale, c'est qu'il n'est pas simplement ouvert aux jeunes, mais qu'il forme vraiment des gens de tout âge, ce qui fait que ce sont véritablement des universités du soir. Nous avons un public de gens de tout âge, et même des gens de troisième âge qui sont d'ailleurs très assidus, généralement très éclairés déjà sur les sujets qu'il faut traiter, car les questions qu'ils posent à la fin de la conférence, ils ont 3 quarts d'heure pour poser des questions, sont souvent des questions qui montrent qu'ils sont très au fait et très éclairés.
On se demande parfois s'ils viennent pas uniquement pour essayer de piéger.
Oui, il y a parfois en effet une certaine tendance malicieuse, une tentation malicieuse de piéger l'orateur qui généralement ne se laisse pas faire parce que nous les choisissons de sorte qu'ils puissent répondre.
Alors justement, vous nous avez annoncé Bernard Anthony en conférence pré-inaugurale.
Jean-Marie Le Pen qui a justement développé le thème général de cette année, à savoir nation, fait et bien fait. Et ensuite Jacques Ploncard-Assac qui parle désormais assez rarement au public, mais qui viendra faire une conférence le 20 octobre sur État, patrie et nation. Nous aurons Jacques Robichez qui est professeur honoraire de littérature française à la Sorbonne, qui cherchera nationalisme et littérature de Paul Bourget jusqu'au Hussard.
C'est
un beau sujet. Hein.
Amusant comme tout.
Alain Sanders qui viendra nous parler du réveil des nations à l'Est. Claude Rousseau, que vous connaissez certainement, qui est maître de conférence de philosophie à la Sorbonne, qui viendra nous parler de nationalisme éthique et sacré.
Beau sujet aussi.
Beau sujet également. Ce sera le 3 février 93. Ah oui, vous me signalez, excusez-moi, que j'ai oublié quelqu'un qui pourrait mal le prendre. Le 17 novembre, Nation, Ordre économique et Concorde sociale, par Gilles Descalgrin, qui est consultant et membre du Centre d'études et d'argumentaires du Front National. Bernard Lugan, le 16 février, viendra nous parler de l'absence de nation, facteur de discorde en Afrique. Et si c'est facteur de discorde en Afrique, pourquoi pas en Europe aussi? Le 16 mars 93, terrorisme intellectuel en 1993 par Jean Madiran, pour fêter le 2e centenaire de la terreur. Le 20 avril, nationalisme, gnose et tradition par Yvan Blot. Le 4 mai, libéralisme...
Il tourne bizarre quand même Yvan Blot, hein, en ce moment.
Hein?
Il
tourne bizarre. Yvan
oui, vous trouvez, oui.
Ah oui, moi je trouve que oui. sa comment dirais-je, sa stature d'énarque
oui.
Est en train de se parer des voiles de l'irrationnel. C'est fascinant.
Ben, vous voyez,
son livre est une merveille.
Je crois qu'indépendamment d'autres considérations de formation intellectuelle pour tous ceux qui viennent à nous, il y a en outre à l'Institut de formation nationale la rencontre d'esprits qui viennent de bords très différents. Je crois que, par exemple, Yvan Blot, si vous voulez, avait peu entendu parler et peu lu Maurras avant de venir à l'Institut de formation nationale, et je dois dire que grâce à moi, ou par ma faute, il en a beaucoup entendu parler, et finalement, il y a des échanges.
Il en a beaucoup retenu.
Et je pense en effet que ça peut avoir, ça favorise, si vous voulez, une sorte de synthèse entre des pensées différentes, des courants différents.
Alors si je peux raconter une anecdote à propos de son livre dont je dis qu'il est une... C'est vraiment un livre oui. passionnant et merveilleux, oui. Ça s'appelle Le Baroque et politique, sous-titré Le Pen est-il néo-baroque ? Et quand la première fois qu'on a parlé du titre de ce livre, je ne sais pas si c'était dans cette émission ou je ne sais où, il y avait dans l'assistance ou dans l'auditoire, comme toujours, un policier des renseignements généraux qui a immédiatement pondu ce qu'on appelle un blanc, c'est-à-dire une note, pour attirer l'attention de ses supérieurs sur le fait que Yvan Blot du Front National préparait une conférence intitulée « Le Pen est-il né au Maroc ?»
Ah bon ?
Oui. Je me souviens que très souvent, c'est comme ça que c'est fait, les fichages. C'est pour ça qu'il ne faut quand même pas trop fantasmer sur le fichage des Français.
Non, en effet, oui. Je me rappelle un jour où, pendant les procès d'Algérie, justement, nous plaidions quelques avocats, et assez vivement, je dois dire, et puis, au moment de la suspension, l'inspecteur des renseignements généraux, qui était au fond de la salle, avait dû s'absenter pour une raison très naturelle, j'imagine, et nous nous étions approchés indiscrètement du carnet où il prenait ses notes. Et il avait résumé toutes nos véhémentes plaidoiries par ces quelques mots, les avocats plaident. Je dois dire que ce jour-là, on avait été un peu déçus, on avait pensé que notre véhémence avait été perdue.
Il y a des moments
du côté des inspecteurs des renseignements généraux.
Alors, est-ce que la véhémence ou la compétence des conférenciers de l'IFN est perdue ? C'est-à-dire, est-ce que c'est par verba volante ou est-ce que verba...
Tout est enregistré sur cassette, sur des cassettes audio et sur des cassettes de télévision.
Vidéo, on dit.
Vidéo, oui, excusez-moi, j'ai pas le langage...
Vous parlez pas chez Brand.
Des cassettes vidéo et d'autre part, de temps en temps, mais nous ne le faisons pas régulièrement parce que c'est un travail trop grand et que nous ne pouvons pas le réaliser, ces conférences sont éditées. Il y en a eu quelques-unes qui l'ont été. La difficulté, c'est que c'est d'abord très long et ensuite il faut soumettre le texte à l'auteur. Vous savez comment sont les auteurs à qui on soumet un texte parlé, ils veulent le réécrire. Il transforme la conférence et puis c'est très long.
Oui, voilà. Alors, où peut-on se procurer ces cassettes ?
Eh bien, on se les procure à l'Institut de formation nationale, lequel siège rue 8, rue du Général Clergéry. Et puis, les jours de conférence, on les trouve exposés dans une petite boutique qui est installée en fond de salle ou à l'entrée de la salle.
Bien, eh bien,
Je rappelle donc les prochaines conférences, le 22 septembre, aux salles du Musée Social, 5 rue Lascaze à Paris 7e. Quant à la conférence de Jean-Marie Le Pen, parce qu'elle a coutume de rassembler au moins 2 ou 3 fois plus d'auditeurs que les conférences ordinaires, elle aura lieu à l'hôtel Intercontinental, 3 rue de Castiglione à Paris 7e, et le 8 octobre prochain.
Je vais vous demander de me donner ce document.
Bien sûr, je vais vous le donner. C'est la liste
des conférences, parce que,
oui.
Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces informations, vous téléphonez demain à Minute La France au 40 05 10 91 et vous demandez Madame Varlet, Françoise, si vous êtes intime avec elle, mais il vaut mieux être intime parce qu'on n'aime pas tellement qu'on l'appelle par son prénom quand on la connaît pas, je vous le dis. C'est quand même pas... c'est pas une éducation 1968.
Oui. Hein,
c'est plutôt la tradition. Donc, vous dites.
C'est pas la manière de la télévision.
C'est pas le genre américain.
On se tutoie et on s'appelle par son prénom tout de suite. Oui.
Pas vraiment.
Oui.
Et donc, sur simple demande de votre part, elle vous donnera la liste de ces conférences et les lieux, c'est-à-dire soit le musée social Lascaz, soit la conférence inaugurale qui aura lieu à l'hôtel Intercontinental, vous donnera le prix des conférences, les adresses où vous pouvez avoir les cassettes, enfin tout ce qui peut vous aider à adhérer,
à participer aux activités de notre institut.
Georges-Paul Wagner, merci. Est-ce que j'ai encore le temps de vous poser une
question?
Oui,
je vous en prie.
Notre ami Roger Olindre vient de publier avec Damien Barillet un livre tout à fait intéressant qui s'appelle SOS Hystérie.
Oui.
Et qui se termine par un document, je dois dire, renversant et très édifiant, et qui est la liste de toutes les procédures intentées par Jean-Marie Le Pen contre des journaux, des organismes, des personnes qui l'ont calomnié, diffamé, injurié, et les procédures engagées par des organismes ou des associations contre Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est très intéressant parce que cette liste est à peu près exhaustive, à ce jour, pratiquement.
Je pense, oui. J'ai dû contribuer, c'est moi qui ai dû lui fournir d'ailleurs.
Voilà, c'est vous qui l'avez fait.
Effectivement, j'ai établi cette liste. Ça doit faire, à l'heure actuelle, une soixantaine de procès qui ont été menés, soit en demande, la plupart du temps en demande, et quelquefois en défense. Et je dois dire qu'en défense, quand nous étions attaqués, la plupart du temps, presque toujours, nous avons gagné. Vous savez que nous avons gagné dans toutes les affaires où la levée de l'immunité parlementaire avait été demandée contre Jean-Marie Le Pen. Dans toutes ces affaires, nous avons gagné, soit devant le tribunal, soit devant la cour, que ce soit l'affaire de l'international juif, que ce soit l'affaire du rafour crématoire, tant et si bien que, à l'heure actuelle, il semble que nos ministres aient renoncé à demander cette levée d'immunité parlementaire. Vous vous rappelez peut-être qu'Édith Cresson avait promis de le faire, lorsque Jean-Marie Le Pen avait traité le Parti Socialiste comme il convenait, faisant notamment allusion au drame des hémophiles contaminés. Madame Cresson avait promis de demander la levée de l'immunité parlementaire. À ma connaissance, ça n'a pas de suite. Je n'ai pas entendu parler. Ça aura peut-être lieu, mais enfin, je ne le crois pas. En tous les cas, donc, il y a eu sur ce point presque uniquement des victoires, vous voyez.
Merci encore, et puis à bientôt, dans d'autres circonstances certainement. Ma chère Françoise, je te retiens pour une émission consacrée à Pierre Sergent dans les semaines qui viennent.
Avec plaisir.
Alors, je me tourne maintenant vers Jean-Pierre Maugendre, à qui je vais demander d'occuper plutôt cette place-là, parce qu'autrement je vais attraper un torticolis qui sera fort préjudiciable à la bonne évolution de mon état de santé. Jean-Pierre Maugendre est président de Renaissance catholique. Depuis tout à l'heure, je vis dans l'angoisse parce que je me dis qu'à un moment, je vais faire le lapsus et je vais dire qu'il est président de Chrétienté Solidarité, ou un truc comme ça, ce qui est vraiment le moyen idéal pour se fâcher avec tout le monde.
Oui.
Bon, Jean-Pierre, tu viens nous parler des événements qui vont jalonner la vie de Renaissance catholique dans les semaines et dans les mois qui viennent. Le plus important étant la grande marche pour la vie, la deuxième grande marche pour la vie, qui va devenir maintenant une tradition à l'image, sinon à l'échelle, mais à l'image de Chartres, du pèlerinage de Chartres. Je parle du pèlerinage de Chartres à Paris. Mais ce n'est pas la seule manifestation patronnée par ou organisée par Renaissance catholique dans les semaines qui viennent, puisque le 17 octobre, il y aura quelque chose de très charmant qui est le traditionnel pèlerinage des vendanges à Notre-Dame d'Alérac dans l'Hérault. Et on peut s'y rendre directement. Le rendez-vous, je le redirai, mais est à 10h devant la cave coopérative de Valflaune. Et on peut prendre les renseignements auprès de Monsieur Kress en composant le 16, si on téléphone de Paris, le 16 67 86 12 58.
Il y a le lendemain, quelque chose d'assez différent, qui est une excursion pédestre et culturelle dans le Paris médiéval, avec Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, Cluny, le Quartier Latin. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on puisse faire à la fois le pèlerinage des vendanges et le lendemain, l'excursion. Alors ça sera guidé par un historien. Rendez-vous à 9h sur le parvis de Notre-Dame. Les inscriptions, c'est 46 62 97 04. Le 24 octobre, excursion en autocar depuis Lille au château de Versailles. Donc c'est pas la peine d'aller prendre le
d'aller à Lille à Versailles si vous habitez pas
l'autocar. Mais vous pouvez vous rendre à Versailles le 24 et rejoindre les amis lillois de Renaissance catholique qui devraient arriver vers 10h à peu près, 10h, 10h30 du matin devant le château de Versailles. Et puis en novembre, il y aura d'autres choses, en décembre aussi. Je donne toutes ces activités parce que c'est vrai que Renaissance catholique semble suivre depuis quelques mois une évolution assez frappante, assez remarquable, qui est l'évolution, qui est celle d'un mouvement, pas seulement d'un mouvement de laïcs dans l'Église, mais un mouvement de laïcs qui mène une activité culturelle, une activité de formation intellectuelle, une activité d'information, conformément aux principes de la cité catholique. Et ça, c'est un très beau travail.
Tout à fait. Je crois les aspects un peu que nous cherchons à développer. Bon, il y a un aspect de formation spirituelle et nous aurons l'occasion d'y revenir puisque la première partie de la marche pour la vie que nous organisons le 4 octobre, donc la matinée, est en fait un pèlerinage. Hein. Il s'agira pour nous de prier aux intentions de la France, aux intentions de tous ces enfants qui sont victimes de l'avortement. Et je crois qu'il y a également une dimension d'engagement dans le cadre de la cité. Et pour cela, doctrinale, si l'on veut, mais il nous paraît aussi également important, et peut-être plus important encore aujourd'hui que par le passé, bien de chercher à incarner l'héritage qui est le nôtre, l'héritage chrétien, l'héritage national, et à le redécouvrir. Je crois que former des chrétiens aujourd'hui, c'est leur faire étudier la doctrine, certes, mais c'est aussi leur faire découvrir le patrimoine qui est le leur et le leur faire aimer, car on ne défend que ce que l'on connaît et que ce que l'on aime.
Alors, pour insister plus particulièrement sur cette deuxième grande marche pour la vie, je voudrais pas te mettre dans l'embarras, Jean-Pierre, c'est pas ça, mais je crois qu'il y a une question maintenant qui devient très très urgente aux yeux des catholiques. C'est celle du combat pour la vie. Mais quand je parle du combat, je veux dire véritablement du combat. Or, on sait qu'il y a des militants catholiques qui ont décidé de prendre en main d'une façon pratique la lutte contre l'avortement, en faisant notamment des occupations d'avortoirs, en faisant de la présence sur les lieux d'avortement pour avoir un contact direct avec les jeunes femmes en détresse et pour essayer de les convaincre de garder la vie en elles et peut-être même pour essayer d'organiser l'aide à cette sauvegarde de la vie. Comment tu vois le rôle d'un mouvement comme Renaissance catholique dans le cadre dans cette direction? Est-ce que tu penses qu'un mouvement comme ça peut aller dans cette direction? Jusqu'où?
Alors, ce que je crois, et c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui, ça me permet un peu de faire le point au niveau français, puis même au niveau international, puis j'ai deux, trois informations qui peuvent intéresser les auditeurs sur la question de l'avortement. Bon, je crois qu'il existe déjà en France, sur cet engagement qui est un engagement pacifique, une association bon, qui est connue, que tu as dû recevoir ici, qui est la Trêve de Dieu, qui mène ces opérations. Bon. Il nous semble que ce que les gens font bien, eh bien, il ne sert à rien de prétendre faire mieux, de les concurrencer. Donc aujourd'hui, notre participation et je dirais notre action dans le cadre de cette opération, nous incitons très clairement nos militants, nos adhérents, nos sympathisants à s'associer à ces opérations qui sont menées avec efficacité par la Trêve de Dieu. Et je dois dire, sans chercher à nous vanter, qu'une part conséquente des bataillons de ces opérations sont constitués par des gens qui participent à nos activités par ailleurs. Et d'ailleurs, une des remarques que nous faisait un de nos amis qui a des responsabilités dans le cadre de la trêve de Dieu, c'est de dire que la régularité des opérations, le fait que l'on cherche à les multiplier dans le temps, qu'il faut venir une fois, revenir, etc., on trouve beaucoup de gens pour venir une fois, bon, qui en ressentent de différents sentiments, mais en tout état de cause, le sentiment d'avoir été utile, mais que si on veut que les gens reviennent, eh bien, pour cela, on ne peut pas faire l'économie de relance, d'un mouvement, d'un appareil, de gens qui se reverront dans d'autres circonstances, peut-être plus agréables et moins douloureuses, ben, pour accepter de mener ce type d'action. Je crois que notre positionnement par rapport à ce type d'action est celui-là.
Parce que je crois que, enfin, je crois pas, je sens qu'il faut un courage formidable pour faire ce que font les gens de la trêve de Dieu. C'est pas seulement d'aller s'enchaîner à des tables d'opération. Ça, l'action elle-même, l'action physique, matérielle, qui consiste à aller sur place, à faire de la présence, à faire de l'obstruction, du terrorisme, comme disent ces salauds des radios d'État et de Libération et des autres journaux qui ont vraiment traité les militants de la trêve de Dieu qui étaient intervenus à Pau comme des terroristes, alors qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien abîmé, ils n'ont rien cassé. Ils se sont contentés de déstériliser du matériel, c'est-à-dire de le rendre inutilisable dans l'instant. Bon, sans rien briser ni rien casser, et de s'attacher à une table d'opération. Et on a vu une avorteuse ensuite à la télévision montrer complaisamment la table d'opération, disant voilà, c'est là que ça s'est passé. D'ailleurs, depuis, cette table d'opération ne fonctionne plus, mais on avait l'impression qu'ils avaient fait dérailler un TGV. Or, si cette table d'opération ne fonctionne plus, qu'elle a changé, d'ailleurs elle fonctionne parfaitement, puisque depuis, ils continuent de s'en servir. Donc c'est le mensonge, la calomnie, la diffamation. Il faut du courage pour affronter ça, pour affronter les flics qui viennent tabasser, parce qu'ils ont des ordres précis. Le ministère, à l'époque où la mère, j'oublie son nom, était ministresse de l'avortement, elle avait donné des ordres aux policiers, enfin elle avait fait donner par le ministère de l'Intérieur des ordres aux policiers d'agir avec violence contre les militants anti-avortement.
Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que le parquet, donc, dans son réquisitoire, pour ce cas particulier des quatre personnes qui sont inculpées à Pau, a demandé 4 mois avec sursis. Donc la volonté, elle est claire, elle est manifeste, c'est une mesure dissuasive.
C'est ça, ils ne reviendront pas, parce que la prochaine fois,
ils ne reviendront pas, et puis on espère que ça calmera les autres. Voilà. Je crois que la volonté est claire, et surtout aujourd'hui, où me semble-t-il, on observe dans plusieurs pays une montée en force des gens qui s'opposent à la légalisation de l'avortement. On peut évoquer la question de l'Allemagne, où à la demande de 80 députés de la CDU, le processus d'uniformisation de la législation entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne, qui devait être revu dans un sens conforme à ce qui se fait en Allemagne de l'Est, c'est-à-dire avec une législation extrêmement permissive. Donc tout était prêt, tout le monde était d'accord, ça devait se faire. Et puis au dernier moment, 80 députés de la CDU, à la demande de M. Kohl d'ailleurs, sont intervenus en disant que ça ne respectait pas la Constitution de la République fédérale, qui reconnaît le droit de la personne humaine et donc le droit de l'enfant à naître. Donc il y a là un combat qui, nous semble-t-il, est un combat difficile. On le voit dans le référendum, effectivement, qui doit se dérouler en Irlande sur ces questions dans quelques semaines. Mais il y a quand même des points positifs en Allemagne, en Pologne. En Pologne également, le Parlement a voté une première motion qui doit déclencher un processus d'interdiction de l'avortement. Bon, il est très clair qu'il s'agit là d'une victoire, d'une part de l'Église catholique, d'autre part de Lech Walesa lui-même. Bon, sur l'ensemble, ou au moins sur une grande partie de l'établissement polonais, qui, à la remorque d'un certain nombre de gourous occidentaux, a bien compris qu'ils n'auraient de l'argent pour relever leur pays que dans la mesure où ils seront dociles sur un certain nombre de questions concernant l'évolution des mœurs. Donc ça, je crois, ce sont des points positifs, même si ce combat aujourd'hui en France n'apparaît pas comme étant un combat prioritaire sur le devant de la scène.
je crois qu'on a néanmoins des signes d'espérance. Et puis aussi, je l'évoquais un peu dans... Bon, dans le cadre de l'éditorial là, de notre revue qui vient de sortir, bon, le débat autour de Maastricht est un débat fondamental pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de l'Europe. Mais il faut être aussi très clair. Aujourd'hui, en France et dans la majorité des pays occidentaux, les générations ne sont plus relevées, c'est-à-dire qu'il meurt chaque année plus de personnes qu'il n'en est. Le débat sur l'Europe risque de devenir caduc, faute de combattants, dans quelques dizaines d'années. Donc ce combat, si ça n'est pas un combat, je dirais, c'est un combat au quotidien, même si les enjeux politiques n'apparaissent pas immédiats, mais sur les décennies qui viennent, sur la fin de ce millénaire et sur le début du XXIe siècle, c'est un enjeu fondamental. Si nous n'emportons pas la victoire sur ce point précis, si cette... éléments, si cette démarche pour la vie ne contribue pas à redresser la natalité française, eh ben, il n'y aura plus de Français. Et le débat sur l'Europe n'aura plus aucun sens, parce qu'il n'y aura plus non plus aucun Européen.
Alors, des auditeurs demandent comment on peut se procurer des tracts pour annoncer et faire connaître la marche pour la vie. Je pense que la meilleure solution, c'est d'écrire à une des organisations qui...
Tout à fait. Donc, cette année, nous avons eu, la grande chance, la grande opportunité pour tout le monde de pouvoir organiser cette marche pour la vie avec l'association Laissez-les vivre, pour ce qui nous permet, sur ce sujet qui est un sujet important, de conjuguer nos efforts, de créer une synergie entre les deux associations que nous représentons. Donc on peut s'adresser soit à Laissez-les vivre, hein, SOS Futur Maire,
139 boulevard Magenta, 75010 Paris.
Tout à fait. Soit directement donc à Renaissance Catholique, hein, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130, ici les Moulineaux. Et en particulier pour Renaissance Catholique, puisqu'il y a un numéro de téléphone, on en est à un peu moins de 3 semaines, vous pouvez téléphoner au 46 62 97 04. De manière à obtenir des tracts.
Même chose que tout à l'heure, si vous voulez avoir de nouveau ces téléphones et ces adresses, vous téléphonez demain à Minute La France, 40 05 10 91, et Françoise Varlet vous donnera toutes ces précisions. Dimanche 4 octobre 92, deuxième grande marche pour la vie. Donc c'est une marche qui va de l'esplanade du château de Versailles au Sacré-Cœur de Montmartre. Elle suit... Des voies de communication, ça va sans dire, mais je veux dire qu'on peut
accessible,
les accessible,
oui,
ça. On peut vous rejoindre si on n'a pas envie de faire toute la marche. Rejoindre à.
Alors on a prévu différents points de rencontre. Hein. On a d'une part un premier point de rencontre qui est pour la messe au bois de Boulogne, donc à 11h45 pour les gens qui souhaitent nous rejoindre dans l'heure de midi pour la messe et pour le déjeuner. Et ensuite, ben, chacun en fonction de ses forces physiques, des points de rencontre sont prévus tout au long de notre itinéraire, soit à 15h30 à la Porte Dauphine, à 16h à la Place des Ternes, à 16h30 à la Place de Clichy, bon, et à 16h30 au Sacré-Cœur. Alors là, je lis le tract, je vois pas très bien comment on fait en même temps à Place de Clichy au Sacré-Cœur.
La tête sera au Sacré-Cœur et la fin du cortège Place Clichy. C'est ça qu'il faut espérer.
C'est ça, c'est ce qu'il faut espérer. Je crois en particulier cette formule permet d'une part à chacun de s'y associer en fonction de ses forces, et je crois que c'est un élément important. Il y a les gens qui feront les 23 kilomètres dans la journée, et puis les gens qui viendront au Sacré-Cœur, ben, ma foi, tout le monde est bienvenu. Et puis j'insiste aussi, parce que c'est quelque chose, c'est un point de détail, si je puis me permettre cette expression, mais nous sommes tous sollicités de tous côtés. Bon, on a là une activité, c'est clair, qui pour nous représente des frais d'organisation importants. Nous avons lancé un pari ambitieux, qui est celui de doubler les effectifs que nous avions l'an dernier. Mais il y a aussi, bah, pour les petites bourses, pour les gens qui ont d'autres obligations par ailleurs, bien c'est un engagement libre, hein. Vous venez, il y a une proposition qui est faite pour un petit livret, pour animer la marche, un déjeuner de prévu, mais vous pouvez aussi vous associer à ça en tant que pèlerin le matin, en tant que manifestant l'après-midi.
13 km le matin, 10 km l'après-midi, 23 km en tout.
Tout à fait.
Donc vous pouvez choisir votre module.
Tout à fait.
Pour parler moderne.
C'est modulable.
Modulable. Merci Jean-Pierre Maugendre.
Merci Serge.
Je rappelle donc encore une fois que si vous voulez des renseignements, vous pouvez appeler le 46 62 97 04 pour l'organisation de cette deuxième grande marche pour la vie qui aura lieu le dimanche 4 octobre 1992, ce qui veut dire que nous en reparlerons dans les semaines qui viennent. Je me tourne maintenant vers le professeur Basile Decoq, s'il veut bien nous consacrer quelques instants de son précieux temps.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, professeur, vous avez...
Je ne suis pas professeur, je suis président.
Oui, mais j'ai décidé de faire de vous un professeur ce soir. Je sais pas, je trouve que c'est mieux, parce que les présidents, il paraît qu'en France, il y a 730 000 présidents.
Oui.
Et il y a... Il faut dire qu'il y a à peu près 700 000 professeurs, donc c'est quand même un petit peu mieux. Bon, alors, disons président, puisqu'il semble tenir à ce titre. Président Basile Decoq, je rappelle que vous êtes président du groupe Jalon.
Président à vie, oui.
Président à vie, auto-proclamé, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, parce qu'autrement, de toute façon, c'était impossible d'avoir cette place. Président à vie, auto-proclamé du groupe Jalon. Et vous venez de publier un numéro qui... Le groupe Jalon est un groupe important, c'est un groupe culturel, d'intervention culturelle. Qui publie d'ailleurs des ouvrages de caractère, dont caractère culturel n'est pas discutable. Le premier, le plus important, c'est un magazine qui s'appelle Jalon, comme son nom l'indique.
Le magazine du vrai et du beau.
Le magazine du vrai et du beau, qui est quelque chose à la fois original et complètement.
Ah oui, oui.
Puisque un numéro récent, je crois que c'est même le dernier, non pas l'ultime, rendait hommage à Monsieur Jack Lang en couverture avec ce titre « Vive la culture jeune ».
Oui.
Jeune même.
Non, jeune.
Jeune, bon, pardon. le précédent rendait hommage à Pierre Bérégovoy avec ce titre « Béré costaud, socialori, kiki, maus, boulot ». Ce qui est complètement dans l'actualité, on peut dire, enfin, dans l'actualité subversive et publicitaire. Le numéro précédent était quand même quelque chose de très intéressant aussi, puisque c'est lancé un grand cri d'alerte, l'écologie tue.
Bien sûr, oui.
Avec un très beau portrait de l'assassin en chef qui est le commandant Cousteau, à moins que ce soit Roger Frison-Roche.
Non, le commandant Cousteau, bien entendu.
Et puis, non, mais je pensais que ça pouvait être aussi Haroun Taziev ou...
Ah non, c'est quand
l'abbé
même
Pierre, on sait plus.
L'homme le plus populaire.
En tout cas, c'est pas
Français.
Simone Veil.
C'est l'homme le plus populaire.
Qui, Simone Veil?
Non, le commandant Cousteau.
Ah non, je crois qu'il s'est fait doubler par l'abbé Pierre en haut de la côte.
Non.
Ah, dans le dernier sondage, l'abbé Pierre est passé devant. J'ai vu ça. Parce qu'il a mis des pinces à vélo sous sa soutane et il a doublé Cousteau qui, lui, était gêné par les palmes.
Moi, je vous parle du moment où mon journal est sorti.
Ah, pardon.
D'autre part, l'abbé Pierre n'incarne pas l'écologie. Il incarne beaucoup d'autres valeurs auxquelles je rends hommage, mais pas l'écologie.
Et donc, Jalon a pris résolument parti pour le oui.
Non, on ne peut pas dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est que j'ai décidé, en tant que président à vie du groupe Jalon, d'appeler à titre personnel les Français à voter massivement oui, à l'exception justement des membres du groupe Jalon, qui conservent leur liberté de vote.
C'est un peu comme au RPR.
Je ne vois pas du tout le rapport. Non, je voudrais expliquer ici les raisons. Après mûre réflexion de mon entourage, il nous est apparu que le oui était la meilleure réponse. D'abord parce que le non me semble être une attitude négative qui, par définition, n'apporte rien de positif. D'ailleurs, la dernière fois que les Français, écoutant de mauvais guides, ont dit non à un référendum, le général de Gaulle est parti et il n'est toujours pas revenu. Ce qui montre le caractère irréversible d'un non, alors qu'au contraire, le oui laisse la porte ouverte à tous les possibles, y compris la non-application du traité et sa dénonciation. Ensuite, je lis les notes que m'a préparées mon nègre. Pourquoi à titre personnel ? Eh bien, tout simplement parce que je préside un mouvement dont les cadres et les militants, dans leur immense majorité, sont farouchement hostiles au traité depuis l'aile gauche jusqu'à l'aile droite. Vous savez que Nazisme et Dialogue a émis des doutes sur le caractère réellement impérialiste et pan-germaniste de l'Europe de Maastricht, et donc s'est prononcé plutôt contre. De même, Socialisme et Barbarie, notre aile gauche, estime que L'Europe de Maastricht n'a aucun rapport avec les États-Unis d'Europe des ouvriers et paysans pauvres et moyens pauvres de la couche inférieure que réclament les travailleurs et que prônait déjà Bordigard de sa prison. Et donc, elle appelle, socialisme et barbarie appelle à voter ni oui ni non. Et dans cette situation, j'ai jugé nécessaire d'octroyer à mes compagnons de vote
la restauration rapide.
Restauration rapide est bien entendu farouchement hostile au traité de Maastricht. Et nous avons eu un débat assez violent au cours du dernier bureau politique.
Ouais. Vous êtes mordu à la main.
Oui, j'ai été agressé par un monarchiste de la tendance restauration rapide, parce que bien entendu, ils m'ont traité de traître à la patrie, etc. Ils n'ont pas compris l'esprit de ma démarche, ce que je voulais essayer de développer, mais si vous ne cessez de m'interrompre, je ne pourrais pas faire passer...
Un journaliste est quand même amené de temps en temps à poser des questions, et par conséquent, voilà, mais je vous donne la parole pour le président.
Merci. Donc, j'ai jugé nécessaire d'octroyer la liberté de vote à mes compagnons si je voulais rester à leur tête. Mais, pour aller au fond des choses, qu'est-ce qu'on reproche à Maastricht d'être un traité incompréhensible écrit dans un sabir technocratique? Bon, c'était la condition nécessaire pour trouver un compromis entre les visions contradictoires de l'Europe qui animent les 12. Et d'ailleurs, en fait, si on y réfléchit, la critique ne vaut pas. C'est aujourd'hui que nul ne s'y retrouve dans le labyrinthe des institutions communautaires. Et le traité de Maastricht clarifie la situation. À partir du 21 septembre, il sera entendu que seules les idées générales seront adoptées à l'unanimité et toutes les décisions concrètes seront prises à la majorité, donc, le cas échéant, contre l'opinion de la France. Mais ça, là, c'est la règle de la démocratie appliquée au niveau international. C'est donc un progrès démocratique. Alors, évidemment, certains ici et là disent « Mais est-ce que la souveraineté de la France ne serait pas menacée ?» C'est évidemment absurde. On nous met en avant la disparition de la monnaie française au profit d'une monnaie unique. Mais les Français doivent le savoir, cette mesure n'a qu'un but, c'est d'en finir avec un système de change complexe qui gêne considérablement les estivants français à l'étranger. D'autre part, peu de gens le savent, conformément à l'alinéa 2 de l'article 105A du chapitre 2 du titre 6 du dit traité, le monopole d'émission de cette monnaie unique dévolue à la BCE ne concerne que les billets de banque, c'est-à-dire que les États membres pourront continuer en toute liberté à émettre des pièces sous réserve de l'approbation de la BCE. Donc vous voyez bien que les arguments des partisans du non sont absurdes. Pour le reste, je dirais, le traité de Maastricht ne prévoit le vote à la majorité, c'est-à-dire donc éventuellement contre l'avis de la France, que sur certains sujets de détail, comme la formation professionnelle, la santé, l'environnement, la politique sociale, ou l'attribution de visas à des étrangers. Mais pour tout le reste, la souveraineté française n'est pas remise en cause, du moins dans l'immédiat. Mais surtout, je voudrais dire, au fond, que ceux qui redoutent de voir la France disparaître dans une fédération supranationale manquent singulièrement de confiance dans leur pays et dans la vitalité du sentiment national. Après tout, est-ce que les Croates, les Bosniaques n'ont pas réussi à sortir de la fédération yougoslave quand ils l'ont souhaité? Eh bien, je dis, je vous prie de ne pas m'interrompre.
Je vous en prie.
Pardon. Les Croates et les Bosniaques ont réussi à sortir de la fédération yougoslave quand ils l'ont souhaité. Eh bien, la France conservera cette possibilité au même titre et dans les mêmes conditions. C'est pourquoi il n'y a aucune raison de dramatiser les enjeux de Maastricht. Voilà. Voilà toutes les raisons pour lesquelles, à titre personnel, j'appelle l'ensemble des Français et des étrangers qui pourraient voter par tous les moyens, même légaux, à voter pour... le traité de Maastricht, c'est-à-dire à dire oui à l'Europe de la paix, à l'Europe de la prospérité, de la démocratie, en un mot, à l'avenir et au mien en particulier.
Merci, Président, de cette brillante démonstration. J'ai été plusieurs fois ébranlé. Je veux dire qu'effectivement, le précédent bosniaque, croato-bosniaque, donne à réfléchir. C'est vrai qu'on n'est pas discutable que la Croatie est parvenue à sortir de l'ensemble yougoslave, et par conséquent, c'est vrai, dans les mêmes conditions et au même prix, la France n'aura aucune peine à sortir éventuellement de l'Europe si...
Quand vous dites au même prix, je me demande s'il n'y a pas un aspect polémique.
Non, pas du tout. C'est pas... Alors, il croyait bien que de l'esprit polémique, il m'est très, très éloigné.
Bon, cela dit, je pense que mon exposé était assez clair.
Il a été intéressant, il a été brillant.
Mais si vous avez clair. Quelques questions...
Je n'ai pas des questions. Je voudrais attirer l'attention sur l'attention du public, même, je dirais même de l'assistance publique, sur la production, donc, du groupe Jalon. Et on vient d'avoir, à travers la prestation brillantissime du président de Coq, un exemple du contenu de ce magazine qui lui est très brillant. Le papier est brillant, j'ai remarqué.
Oui, oui, oui. C'est assez brillant. Mais il faut que le fond et la forme se correspondent.
Alors, il y a du rouge et du noir, c'est très bien. On dirait... faisait bien. J'allais dire, on dirait Minute il y a 10 ans, mais... en mieux, quand même.
On dirait... J'ai entendu tout à l'heure que vous traitiez de salaud les gens de Libération. On dirait Libération.
Ah non, j'ai pas traité de salaud les gens de Libération.
Mais écoutez la bande.
J'ai dit...
Et moi, je voudrais rendre hommage à mes amis de Libération qui ont fait un bel article sur Maastricht dernière, qui est le numéro spécial de Jalon, donc, qui est en kiosque là, en disant que nous prenions un oui iconoclaste. Et je crois que...
Ils ont
exactement compris ce que je viens de vous expliquer.
Alors là, vous avez donné toutes les raisons qu'on a de voter oui, mais il faut dire que dans donc ce magnifique magazine brillant, sur papier brillant, qui est Jalon spécial Maastricht dernière, il y a également toutes les raisons qu'on a de ne pas voter non. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes raisons de voter oui, il faut avoir de bonnes raisons de ne pas voter non.
Ah oui, parce que, bon, il faut savoir quel drame ce serait pour la France, l'Europe, le monde et la galaxie d'Andromède si jamais le non l'emportait. Et dès le 21 septembre.
Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de ce travail magnifique qui a été exécuté, je pense, par des experts de votre équipe?
Non, non, pas du tout. Nous avons repris les travaux des experts de l'ORSEC.
Ah, de l'ORSEC. Oui. Et alors, ça s'appelle Apocalypse Non, le scénario catastrophe. Et ça énumère ce qui se passerait dans le cas d'une victoire du non. Je vous laisse développer... oralement, ce que vous avez déjà développé scripturairement.
Bon, vous avez, je ne voudrais pas faire de catastrophisme parce que je suis bien persuadé que les Français ne seront pas assez stupides pour céder à cette espèce de grosse berta médiatique en faveur du non. Et il y a de la propagande. Vous avez remarqué que l'ensemble de la classe politico-médiatique s'agite autour du non, mais je suis persuadé que les Français ne sont pas dupes. Donc, je veux bien évoquer sur quelques points les grands risques du non. Ce qui est certain, c'est que le président Mitterrand, qui est déjà atteint, comme vous ne pouvez pas s'en ignorer,
dans ses œuvres vives,
une lésion cancéreuse qui est heureusement uniquement hormonodépendante, c'est-à-dire qu'il peut encore tenir environ 15 ans. Mais il est clair que dès l'annonce de l'hypothétique victoire du non, il se retirerait en Bosnie avec sa femme, suivi de peu par Jacques Delors, qui l'a annoncé. Vous imaginez les conséquences. La place de Jacques Chirac à l'intérieur du RPR serait remise en cause. Guy Lux lui-même, qui devait animer Jeux sans frontières la semaine d'après, risque de démissionner face à cette situation. Bien entendu, la bourse va s'effondrer, chute des valeurs françaises, et ainsi que des agents de change qui vont tomber des toits, et le franc sera attaqué de toutes parts. Même si on peut prévoir un appel à Clovis lancé par Jean-Marie Le Pen, ça ne suffira pas à empêcher le marque de passer la barre des 5 francs. Et je peux redouter le pire, et notamment de la part de nos voisins d'Outre-Rhin, qui, vous le savez, sont toujours tentés par leurs vieux démons. Eh bien, ils vont se retourner vers l'Est et ils vont recréer cette Mitteleuropa qui nous rappelle les heures les plus noires de la... les heures les plus noires.
Voilà.
Et bientôt, on verra l'Autriche-Hongrie, la Bohème-Moravie et autres pays succomber au charme du pan-germanisme. Et la conséquence immédiate, c'est que la guerre s'intensifiera dans l'ex-Yougoslavie entre Croates pro-allemands et Serbes pro-français, et on se retrouvera dans la situation de 1914. Nous allons vers une quatrième guerre mondiale. Je pense à la troisième étant celle du Golfe.
Du Golfe, qui est terminée.
Qui est terminée.
Pour l'instant.
D'autre part, il faut voir que sur le plan intérieur, puisque ces gens-là, les partisans du non, les nationalistes bornés, s'intéressent qu'à la France. Eh bien, disons-leur ce qui va se passer. La France sera de plus en plus isolée, elle sera déconsidérée dans le concert mondial. Et le chômage, évidemment, franchira la barre des 4 millions. Euro Disney sera condamné à fermer ses portes, suivi par Virgin Megastore et le Burger King des Champs-Élysées. Et je ne cite que quelques exemples.
Naf-Naf pourrait interrompre ses ventes, Benetton et autres, Chevigny aussi. Enfin,
on peut craindre le pire.
J'ajoute, il y a quelque chose que vous avez oublié de nous rappeler, et je voudrais l'indiquer, c'est que quand même, un des effets les plus dramatiques du vote non, ce serait que vos experts l'écrivent, les demandeurs d'asile maliens refusent d'être hébergés en France.
Ah bah ça, c'est la conséquence de la perte de considération de la France dans le monde.
Et puis alors, on arrive à une situation, vraiment, là, on développe, mais c'est pas de la science-fiction, ça pourrait en être, mais ça n'en est pas, c'est la fin finale, si j'ose dire, des conséquences du non, c'est-à-dire que les prix grimpent, plus rien n'arrête l'inflation, l'argent dévalue, donc les Français se lancent dans une consommation effrénée, qui dit consommation dit pollution, surpollution, réchauffement de la planète, fonte des glaces du pôle Nord, et dans les glaces du pôle Nord, 93 années terribles, la fonte réveille naturellement des monstres préhistoriques qui étaient en hibernation depuis plus de 100 000 ans, depuis plus de 1000 siècles, et naturellement...
Voire de 50 ans, ce qui est pire.
Voire même 50 ans, ce qui est pire, comme dirait Patrick Bruel, et brusquement réveillé par... l'explosion d'une centrale atomique en Lituanie, ces monstres viennent semer la terreur sur le continent, ajoutant leurs inconvénients à la famine et au sida qui sévissent déjà. Donc,
Je vois que vous connaissez bien notre dossier.
Oui, je connais bien. J'ai étudié sérieusement. Et je dois dire que la dernière nouvelle est quand même la plus effrayante, c'est que, par mesure d'économie, TF1 renonce à Sacrée Soirée et à Tous à la Une.
Il ne faut pas affoler les Français, ce n'est qu'une projection de l'ORSEC au cas où les Français s'abandonneraient au vote non, ce qui est une hypothèse d'école, bien entendu.
Bien sûr. Alors, si on ne veut pas s'abandonner au vote non, je recommande tout particulièrement la lecture de ce travail remarquable d'intelligence et de rigueur, qui correspond d'ailleurs à peu près à la rigueur et à l'intelligence de tout le travail qui a été fait par les Ouistes depuis le début de la campagne. Et ça s'appelle Jalon, c'est le numéro spécial Maastricht dernière, c'est numéro 6, en vente dans tous les bons kiosques, et même dans certains mauvais, je dois dire.
Ah oui, absolument.
Moi, j'ai un mauvais kiosque à côté de chez moi, et il était en vente dedans. C'est là, d'ailleurs, que je l'ai acheté. Et tout particulièrement, il faudra lire un article intitulé « Droits d'ingérence », et qui explique comment Elie Wiesel et ses amis ont lancé l'International du Oui. Ses amis, ce sont des personnalités aussi éminentes que M. Grosconnot du Banc Loto, poète qui est également... Non, pardon, le roi Grosconnot du Banc Loto, le poète ukrainien persécuté Yospis Portebuich, le joueur de poker américain Kent Flush, le mathématicien Zahiroua Katekatoui, le saxophoniste apatride Yehudi Manouyin et le chômeur Théo Miliarakis, ex-victime des colonels grecs, actuellement sans emploi, qui vient donc de retrouver, probablement composer une musique pour le Oui. Merci, président de Coq. Il faut absolument lire Jalon, ce numéro spécial de Jalon. D'abord parce que vous avez besoin d'argent, je le sais.
Ah, bah, qui n'en a pas besoin?
Et ensuite, parce que vraiment, 10 francs, c'est pas cher, et on en a pour son argent.
Ah, bah, et surtout, ce qui est important, c'est que c'est l'ultime cri que nous poussons pour demander aux gens de se réveiller et d'éviter le piège du nationalisme rétrograde et d'entrer vers l'Europe fédérale qui est l'avenir du futur, que ce soit pour la France ou pour le monde.
Merci beaucoup. Merci,
président. C'est ma tournée.
Voilà, quelques informations. On a le temps encore de donner quelques nouvelles?
Très peu.
Très peu. Regardez là, elle ne veut pas me donner la parole. Alors, je signale qu'il y a un pèlerinage légitimiste qui est organisé à Sainte-Anne-d'Auray le 26 et 27 septembre 1992. Tous les renseignements peuvent être pris où dans ça? Ah ben voilà, ça y est.
À la fin du papier.
Pardon, Cercle légitimiste d'Île-de-France. Boîte postale 179 75 864 Paris CEDEX. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais autre chose à dire. Oui, j'ai reçu quelque chose. Il faut absolument vous abonner à ça si ce n'est pas déjà fait. Ça coûte 3 francs 6 sous. Je l'ai déjà dit. Ça coûte 80 francs. Et ça s'appelle Bonum Certamen. c'est la merveilleuse publication de l'abbé Moureau. Alors pour s'abonner, il faut écrire à l'abbé Henri Moureau, 69 rue du Maréchal Oudinot, 54 000 Nancy. Et je peux vous le dire, pour le lire à chaque fois qu'il paraît, il n'y a aucune faute, bien entendu.
Pour l'Institut de formation nationale, vous pouvez obtenir tous les renseignements en téléphonant 8 rue du Général Clergerie à Nicole Dorlin ou Françoise Monestier, le téléphone 47 27 56 66 ou 40 43 89 88 ou appelez Madame Varlet demain.
Je signale la parution du numéro 93-94, numéro double de Reconquête. Avec un éditorial de Bernard Anthony, des articles sur l'actualité et un très bon papier d'Yvan Blot qui s'appelle « La désincarnation plaie du monde moderne » qui est une belle réflexion philosophique, plus quelques pages sur le bicentenaire SANG bien entendu.
Rappelons que les funérailles de Pierre Sergent auront lieu vendredi 18 à 10h30 au Val-de-Grâce, à la chapelle où les honneurs militaires lui seront rendus.
Oui, on me dit que la cérémonie serait présidée par Élie Denoy de Saint-Marc, qui était un camarade de combat de Pierre Sergent, et enfin, on connaît tous le commandant Denoy de Saint-Marc, qui était souvent l'invité de Radio Courtoisie, notamment dans l'émission de Jean Ferré, où je dirais une dernière chose, l'autre jour une question a été posée. À quel titre correspond le numéro 666, le nombre de la bête, de la collection Que sais-je ? Eh bien, vous allez voir qu'il n'y a pas de mystère, ce titre correspond à un livre intitulé « Les pèlerinages ». Donc, contre la bête, les pèlerinages.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, diffusé en direct le mercredi 16 septembre. De 18 à 21h, et en différé le jeudi 17 septembre, dans la nuit de 2 à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute source publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libre, vous pouvez adhérer à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Vous commandez les deux cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix global franco de port de 130 francs ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En envoyant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Notez bien Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci à tous et tout spécialement aux pèlerins de Renaissance catholique qui étaient dimanche à Lisieux chez Sainte-Thérèse, qui m'ont envoyé une très belle carte, un très beau portrait de Sainte-Thérèse avec plein de signatures derrière, et qui ont prié pour nous, c'est-à-dire pour cette radio, au cours de ce pèlerinage, c'est très gentil. Merci encore, bonne semaine, que Dieu nous garde.